Cover. Dub.
Pour poursuivre le voyage sonore, rendez-vous sur le site web de l'émission
solenopole.org.
Oh, Stadler!
Quoi? C'est fini?
Ah oui? T'as aimé?
Je sais pas, je me suis endormi dès le début.
Eh ben, t'as pas raté grand-chose.
Vous avez 5 secondes pour arrêter la demande. 5...
Yeah, madanga boya boya boya. Why, yeah, madanga boya boya boya.
Dar.
Ceci est une émission de radio.
Nous interrompons notre émission pour un message urgent.
Je le répète.
Tout à l'heure, à 15h10 temps universel et en podcast sur RFI.fr.
Radio France Internationale, 6h à Paris, 4h en temps universel et à Bamako. Avec une nouvelle édition du journal Gaëtan Plenet, bonjour.
Bonjour Edouard, bonjour à tous.
Vous revenez bien sûr dès le début de ce journal sur cette journée de violence hier au Mali.
Et plusieurs villes simultanément attaquées par le JNIM et le FLA. Le gouvernement de transition dit désormais avoir le contrôle de la situation. Deux nouvelles frappes israéliennes au Liban. Benjamin Netanyahou a ordonné à son armée de frapper le Hezbollah avec force. Le cessez-le-feu semble plus que jamais menacé. Benjamin Netanyahou qui a révélé avoir été opéré pour une tumeur à la prostate, il le dit. Deux mois plus tard, et ses opposants n'apprécient pas franchement ce décalage. Ils manifestaient hier à Jérusalem, RFI y était. Dans ce journal également, Donald Trump évacué lors du dîner des correspondants de la Maison Blanche après des tirs à l'extérieur du bâtiment où avait lieu le gala. Un homme a été arrêté. On va parler aussi de la Roumanie qui a convoqué l'ambassadeur de Russie à Bucarest après des dégâts provoqués par un drone russe dans le pays. Et puis l'exploitation aurifère illégale toujours présente en Amazonie. C'est un rapport qui nous le dit. Bamako, Kidal, Gao, Sévaré, Mopti, Kati. Dans toutes ces villes maliennes hier, des attaques simultanées et coordonnées entre les djihadistes du JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, et le FLA, les séparatistes Touareg du Front de Libération de l'Azawad, qui en fin de journée disait contrôler totalement Kidal. Le JNIM a lui notamment revendiqué les attaques contre l'aéroport international de Bamako, mais aussi contre les résidences du président Assimi Goïta et de son ministre de la Défense Sadio Camara. Des attaques terroristes, dit le gouvernement malien de transition dans un communiqué. Il assure, lui, avoir le contrôle de la situation dans toutes les localités concernées. Retour sur cette journée avec Amélie Tulé.
Des attaques intenses, selon les témoins, lancées dès l'aube contre des sites stratégiques comme l'aéroport Modibo Keïta de Bamako.
Ce matin, je me suis préparé pour partir à l'aéroport. J'avais un vol prévu, je voulais quitter le pays. Toutes les voies étaient coupées par les militaires. Ce que j'ai remarqué, c'est que les soldats avaient l'air d'être en panique. Ce qu'ils nous ont dit quand même, c'est de rebrousser chemin parce que l'aéroport est fermé. J'ai parlé à plusieurs connaissances qui me disaient qu'ils ont entendu beaucoup de coups de feu et jusqu'à présent, ça continue.
Dans l'après-midi, selon plusieurs témoins, la situation est calme dans la capitale et à Kati. À Sévaré et à Gao, en revanche, le JNIM affirme maîtriser en fin de journée les bastions militaires et avoir le contrôle total de la ville de Mopti, d'où parle cet habitant.
La population, elle est paniquée, il n'y a pas eu de marché. Pratiquement toutes les familles sont enfermées, les maisons sont fermées. La gendarmerie et le commissariat de police de Mopti ont été pris d'assaut par les assaillants. Pratiquement tout est contrôlé par les assaillants.
Le JNIM revendique par ailleurs la prise de Kidal en coordination avec le Front de Libération de l'Azawad, le mouvement séparatiste Touareg qui assure vouloir continuer ses opérations jusqu'au contrôle de tout le nord du Mali.
Et le JNIM annonce aussi vouloir laisser Afrikakor hors du conflit. Un cadre du FLA affirmait lui hier soir que le groupe de mercenaires russes avait sollicité un corridor de retrait. L'ambassade russe de son côté dit condamner fermement ces attaques perpétrées, je cite, par des groupes terroristes armés. Condamnation ferme aussi de l'Union africaine qui dit craindre des dangers importants pour les civils quand l'ambassade américaine au Mali a appelé ses ressortissants à rester chez eux. J'ajoute que les autorités maliennes ont décrété un couvre-feu nocturne à Bamako entre 21h et 6h. Il est censé rester en vigueur encore pour deux nuits. RFI, il est 7h et bientôt 4 minutes à Beyrouth, le Liban, où il est de plus en plus difficile de parler d'un réel cessez-le-feu. Selon l'agence officielle ANI, de nouvelles frappes israéliennes ont eu lieu dans la soirée dans plusieurs villes du sud du pays. Déjà pris pour cible quelques heures plus tôt, les autorités avaient alors fait état de 6 morts. L'armée israélienne dit avoir frappé des infrastructures du Hezbollah, utilisées, dit-elle, à des fins militaires. Le mouvement chiite pro-iranien affirme lui avoir visé un véhicule de l'armée israélienne. Le tout, je le disais, alors qu'un cessez-le-feu est encore censé être en vigueur. Mais le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a ordonné hier à ses soldats de frapper avec force le Hezbollah, qu'elle accuse elle-même de violation de la trêve. Pour ce qui est de l'Iran, pas de reprise de la guerre, assure Donald Trump, qui a pourtant annulé hier l'envoi de deux de ses émissaires au Pakistan. Les États-Unis affirmaient vouloir discuter là-bas avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. Sauf que ce dernier est reparti avant même l'arrivée des Américains. Il s'est simplement entretenu avec de hauts aux responsables pakistanais avant de se rendre ensuite à Oman. Il y est encore, mais l'agence officielle iranienne IRNA nous dit quand même qu'il doit ensuite revenir dans la journée au Pakistan sans pour autant en préciser la raison et sans se prononcer non plus sur l'avenir du cessez-le-feu entre Américains et Iraniens prolongé de 3 semaines par Donald Trump. Un cessez-le-feu dont un autre pays de la région ne profite pas visiblement. Le Koweït, dont des postes frontières du nord du pays ont été pris pour cible par des drones venus d'Irak, c'était vendredi. Alors pas de morts, mais des dégâts matériels et des tensions historiques ravivées dans une région déjà sous haute tension. Depuis le début de cette guerre reprochée au Moyen-Orient, des groupes pro-iraniens ont attaqué des intérêts américains en Irak et dans la région. Alors pourquoi ces frappes continuent-elles aujourd'hui? On a posé la question à Tamer Badawi, spécialiste de l'Irak, associé au Royal United Service Institute, et il y voit plusieurs facteurs.
Déjà la guerre. Il existait un différend maritime entre l'Irak et le Koweït. Elle se trouve actuellement dans les eaux territoriales irakiennes, mais le Koweït conteste cette zone. Et les groupes armés soutenus par l'Iran, ainsi que leurs partis politiques, ont toujours été très défensifs la concernant. Cela n'a fait qu'ajouter une couche supplémentaire d'hostilité. Non seulement le Koweït permet des attaques américaines contre l'Iran, mais il conteste aussi nos frontières et veut s'approprier une partie de nos terres. C'est ainsi que ces groupes soutenus par l'Iran perçoivent la situation.
Si ces frappes continuent, c'est aussi parce que le Koweït est perçu comme l'un des éléments les plus faibles au sein du Conseil de coopération du Golfe. Par exemple, frapper les Émirats arabes unis demanderait un effort supplémentaire. Géographiquement, c'est plus éloigné. Des attaques contre les Émirats arabes unis nécessitent l'utilisation de projectiles passant par le territoire saoudien. Avec le Koweït, c'est aussi plus proche, car il partage des frontières avec l'Irak, et donc cela n'entraînerait pas les mêmes risques géopolitiques qu'une attaque contre l'Arabie saoudite elle-même ou les Émirats arabes unis.
Des propos recueillis par Alice Froussard. Faible engouement hier en Cisjordanie occupée, 53,4% de participation pour les élections municipales. C'est un petit peu moins qu'en 2022 lors du précédent scrutin. Taux d'abstention encore plus fort à Dar el Balah, seule ville de la bande de Gaza où ce scrutin était organisé. Là-bas, à peine plus d'un électeur sur 5 est allé voter. À Gaza, c'était le premier scrutin organisé depuis 2005 et la prise de contrôle du territoire par le Hamas est le premier aussi donc depuis la guerre menée par Israël et qui a ravagé ce territoire palestinien. Israël où la polémique enfle, le premier ministre Benjamin Netanyahou a révélé avoir été opéré d'un cancer de la prostate il y a 2 mois, le tout dans le plus grand secret. Rien n'avait filtré pour des raisons de sécurité nationale, dit le principal intéressé. Ça ne convainc pas ses opposants qui y voient surtout un manque de transparence et une manœuvre politique aussi. Il manifestait hier, reportage à Jérusalem de Michel Paul.
C'est une annonce qui soulève déjà une vive polémique. Si le Premier ministre affirme aujourd'hui se porter très bien, l'opacité totale observée depuis 2 mois provoque la colère dans la rue. Vered Berman.
C'est un lâche et un manipulateur qui ne nous a jamais rien révélé. Maintenant, nous voulons voir, puisque nous ne le croyons plus, s'il est vraiment en bonne santé ou non, et s'il nous mène à la perte tout en étant malade.
Netanyahou justifie ce silence par la volonté de ne pas nourrir la propagande iranienne. Pour beaucoup, comme Rimon Navi, ce secret est le symptôme d'une dérive plus profonde.
C'est partie des mensonges qu'il est habitué à dire. La chose principale, c'est le fait qu'il ne veut pas d'enquête sur ce qu'il a fait avant le 7 octobre 23 et surtout ce qu'il a fait après.
Une stratégie du silence qui, si elle choque par son ampleur, s'inscrit pourtant dans une certaine tradition du pouvoir, comme le rappelle Daniel Greizamer.
Je suis médecin. De Mitterrand jusqu'à Reagan, tous les hommes politiques cachent leur état de santé. C'est antidémocratique, mais ça ne m'étonne pas de Netanyahou, mais il n'est pas le seul.
Reste que pour une partie de la presse, le mal est fait. L'éditorialiste du quotidien Haaretz conclut amèrement « Le mensonge est devenu un mode de fonctionnement criminel et systémique chez Netanyahou que même des radiations ne pourront soigner ». Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Une conférence de presse en smoking pour Donald Trump et les journalistes qui l'interrogeaient. Alors que tous assistaient hier soir au dîner des correspondants de la Maison-Blanche dans l'hôtel Hilton de Washington, des tirs ont été entendus à l'extérieur du bâtiment. Un homme a été arrêté, il aurait tenté de forcer l'entrée du gala. Donald Trump a été immédiatement évacué. Lors de cette conférence de presse qu'il a donc donnée quelques heures plus tard, il a parlé d'un assassin en puissance qui cherchait à tuer, le qualifiant de loup solitaire et de cinglé. Il a salué le travail des services services de sécurité. Le tireur présumé, lui, comparaîtra lundi devant la justice. On va revenir sur ce qui s'est passé avec notre correspondant dans le journal de 5 heures en temps universel. En attendant, lourd bilan en Colombie. Après un attentat à la bombe dans le sud-ouest du pays, on en est à 14 morts et une quarantaine de blessés. Ça s'est passé sur une route du département du Cauca. Les autorités accusent la principale dissidence des FARC, une dissidence qui n'a pas adhéré à l'accord de paix signé en 2016 entre les forces armées révolutionnaires de Colombie et le gouvernement. Ces derniers jours, d'autres attaques du genre ont eu lieu dans le pays alors que l'élection présidentielle doit avoir lieu le 31 mai prochain en Colombie et que la sécurité est justement l'un des principaux enjeux de cette campagne. Deux morts dans le nord-est de l'Ukraine, à quelques kilomètres seulement de la frontière russe après une nouvelle attaque de drones russes. Hier, 8 autres personnes avaient été tuées, cette fois à Dnipro, dans le centre-est de l'Ukraine, où les autorités affirment que les frappes de Moscou ont duré plus de 20 heures. La Roumanie, elle, a annoncé qu'un drone russe s'était écrasé dans le pays dans la nuit de vendredi à samedi, près de sa frontière avec l'Ukraine, dans la ville de Galați. Les autorités roumaines ont convoqué l'ambassadeur de Russie à Bucarest, où nous retrouve notre correspondant Guillaume Bernès.
Lors d'une vaste attaque nocturne menée par la Russie en Ukraine, un drone russe traverse la frontière pour pénétrer en Roumanie. L'appareil vole à basse altitude pendant 4 minutes dans le ciel roumain avant de s'écraser en périphérie de la ville de Galați, à 14 km de l'Ukraine. Dans sa course, le drone heurte l'annexe d'une maison et endommage un poteau électrique. Une charge explosive encore inactivée se trouve parmi les débris. Plus de 200 riverains sont alors évacués. Les autorités transportent la charge à l'écart des habitations avant de procéder à une détonation contrôlée. Depuis le début de la guerre en Ukraine, plusieurs drones russes ont déjà illégalement survolé ce pays membre de l'OTAN. Il s'agit toutefois des premiers dommages matériels causés par ce type de vol en Roumanie. Le Premier ministre roumain, Ilie Bolojan, dénonce, je cite, « un acte irresponsable et une grave violation du droit international par la Russie ». Moscou n'a pas réagi. Le ministère de la Défense roumaine admet que le nombre de radars capables de détecter le vol d'objets de petite taille à très basse altitude sur son territoire est limité. Guillaume Bernès, Bucarest, RFI.
Et la Russie est aussi vraisemblablement, dit Berlin, derrière les cyberattaques qui ont récemment visé la messagerie Signal en Allemagne, où une enquête est en cours pour suspicion d'espionnage. Plusieurs responsables politiques allemands ont notamment été visés par ces attaques informatiques, mais c'est le cas aussi de diplomates, de militaires ou encore de journalistes. Le Brésil, mauvais élève en termes d'exploitation de l'or, une pratique très néfaste pour l'environnement. Rien que sur les 3 derniers mois de l'année 2025, elle a provoqué la déforestation de 6000 hectares dans des zones protégées et des territoires indigènes de l'Amazonie. C'est ce que nous dit le nouveau rapport trimestriel de la plateforme Amazon Mining Watch, qui utilise une intelligence artificielle pour cartographier l'impact de cette exploitation minière dans les 9 pays amazoniens. Et c'est donc le Brésil qui a enregistré la plus forte expansion minière récente, Juliette Pietraszewski.
Avec environ 2000 hectares de forêts rasées, le Brésil occupe la première place des pays amazoniens les plus touchés. Viennent ensuite le Pérou, puis le Guyana, avec respectivement 1700 et 900 hectares de déforestation liés à l'exploitation minière illégale entre octobre et décembre 2025. Selon Amazon Mining Watch, cette menace en Amazonie pèse d'autant plus que le cours de l'or a augmenté. En janvier dernier, il a même dépassé la barre des 5000 dollars. Or, la déforestation s'observe dans des zones protégées et des territoires autochtones. C'est le cas en Équateur. Le territoire autochtone de Arajuno Chichicorumi, reconnu comme tel par les autorités l'an dernier, a subi une déforestation qui a plus que triplé au dernier trimestre 2025. La forêt amazonienne est l'une des 3 plus importantes forêts primaires du monde, mais au total, près de 500 000 hectares de territoires autochtones et d'aires protégées ont été touchés par l'exploitation minière entre 2018 et 2025, selon Amazon Mining Watch. Les ONG appellent donc les autorités à se saisir complètement de la problématique.
Et puis un petit mot de football en France et le Paris Saint-Germain qui prend le large en tête du classement de la Ligue 1. 6 points d'avance désormais sur son principal poursuivant, Lens, alors que les Parisiens ont battu Angers hier soir 3-0. De bon augure aussi avant la demi-finale allée de la Ligue des Champions PSG-Bayern Munich. Ce sera mardi.
Gaëtan Plenet.
Le retour de l'actualité africaine dans un quart d'heure. D'ici là, entretien à suivre avec le général Siri Yutchenko, commandant de la Légion étrangère, un corps d'élite français taillé pour les combats de haute intensité. Et puis on va vous emmener aussi dans les couloirs de l'herbier national du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Ce sera notre chronique de la biodiversité.
Mais d'abord, on part à Taïwan. Taïwan qui tente de relancer son programme nucléaire. Marche arrière toute pour la petite île au large de la Chine. Il y a à peine un an, elle fermait ses centrales. Sauf que Taïwan a besoin de beaucoup d'énergie, notamment pour faire fonctionner son industrie de semi-conducteurs, très gourmand dans la matière. Et 95% de l'énergie taïwanaise est importée. Alors le président, dont le parti était pourtant le fer de lance anti-nucléaire dans le pays, annonce finalement vouloir relancer les centrales pour assurer à l'île une certaine autonomie, en tout cas meilleure que ce qu'elle est aujourd'hui. Reportage de Jules Bois.
Le petit port de pêche touristique de Yeliu, au nord de Taïwan, est situé à quelques kilomètres seulement de l'une des deux centrales nucléaires concernées par le projet de réouverture. Son dernier réacteur a été mis hors service il y a seulement 3 ans, mais ses habitants attablés pour le déjeuner pensent que le remettre en route est la seule solution viable.
Pourquoi est-ce qu'ils veulent relancer le nucléaire? Parce qu'à Taïwan, on manque d'électricité, le charbon, ça pollue, l'éolien, pas assez efficace. Le nucléaire, par contre, si c'est bien géré, aucun problème.
Pragmatique, il pense moins au risque d'accident nucléaire qu'aux opportunités d'emploi dans la région.
Ça fait aussi plus de travail pour notre communauté. Il y a plus d'avantages que d'inconvénients.
Mais à Taïwan, le nucléaire est loin de faire l'unanimité. Pour la secrétaire générale de la plus importante association citoyenne opposée au nucléaire, le traumatisme de l'accident de Fukushima ne doit pas être oublié.
Le séisme de 2011 qui a provoqué l'accident nucléaire de Fukushima a eu beaucoup d'impact sur Taïwan. Taïwan et le Japon sont des régions similaires avec de nombreux séismes. Il faut continuer à tirer les leçons de cet événement. Quand on a la preuve de nouvelles failles géologiques, on ne devrait pas relancer le nucléaire.
Après l'accident de Fukushima, des centaines de milliers de personnes ont manifesté plusieurs années dans les rues auprès d'une victoire, celle de l'arrêt total de tous les réacteurs du pays, la dernière centrale fermant ses portes en mai l'année dernière. Avec cette annonce de relance, le mouvement anti-nucléaire est prêt à s'opposer une nouvelle fois au gouvernement.
Nous espérons pouvoir cette fois encore gagner, car en réalité, les problèmes d'hier et ceux d'aujourd'hui n'ont pas changé. Taïwan est toujours une région à forte activité sismique et les centrales nucléaires de Taïwan sont toujours situées dans des zones urbaines densément peuplées. Nous estimons que les conditions n'ont pas changé, nos inquiétudes restent les mêmes.
Bien consciente des difficultés de Taïwan pour assurer son autonomie énergétique, la Chine tente elle aussi de s'immiscer dans le débat via son porte-parole des affaires taïwanaises quelques semaines après le début de la guerre en Iran.
Après une réunification pacifique, nous pourrions tout à fait compenser les pénuries de Taïwan en électricité, en gaz naturel, en pétrole brut et offrir à Taïwan une garantie fiable pour sa sécurité énergétique.
Pour ne dépendre ni du détroit d'Ormuz ni de la Chine, le gouvernement taïwanais espère pouvoir relancer 2 de ses centrales nucléaires d'ici 2029. Jules Bois, Taipei, RFI.
Un reportage à retrouver sur RFI.fr. Un entretien ce matin dans la chronique défense, entretien avec le général Siri Yushchenko, commandant de la Légion étrangère, un corps d'élite qui représente 10% des effectifs de l'armée de terre française et qui réunit quelques 144 nationalités. Une troupe singulière, taillée pour les combats de haute intensité. Le général Siri Yushchenko répond à Franck Alexandre.
Bonjour général Yushchenko.
Bonjour monsieur.
À l'heure de l'hyperdronisation des conflits, à quoi sert encore un légionnaire?
Alors un légionnaire, c'est un combattant avant tout. Il est utile dans tous les conflits puisque après avoir modélisé le terrain par l'arme aérienne ou par les drones, à un moment donné, il faudra aller au choc, il faudra aller au combat. Et la Légion étrangère s'entraîne aux chocs les plus durs, aux combats les plus exigeants, à l'hypothèse d'engagement majeur. Et donc la Légion étrangère a toujours cette utilité vu qu'elle représente 10% de l'armée de terre aujourd'hui.
Le chef d'état-major des armées, le général Fabien Mandon, a évoqué un choc possible face à la Russie d'ici la fin de la décennie. Quelles sont vos marges de manœuvre pour grossir très vite en cas de crise?
La Légion a la chance d'avoir, bon an mal an, 6000 volontaires qui viennent se présenter à ses portes. Si vous me demandez de faire ça dans des délais très brefs, le plus simple pour la Légion étrangère, ce serait de créer un régiment d'infanterie. Nous avons actuellement plusieurs régiments d'infanterie, un régiment de cavalerie et 2 régiments de génie au sein de la Légion étrangère. Créer des capacités supplémentaires nécessiterait des délais de formation que la Légion n'a pas en propre actuellement, et donc ça nécessiterait un peu plus de temps.
Ce vendredi 30 avril, vous allez célébrer la bataille de Cameron qui fonde la Légion étrangère. La main du capitaine d'Anjou, la main en bois, sa prothèse, sera portée par un ancien chef d'état-major. le général Burkhard, et ça, c'est pas si courant.
Oui, alors la main du capitaine d'Anjou, qui remonte la voie sacrée le jour de Cameron à Aubagne, symbolise le serment que le légionnaire fait de servir la France avec honneur et fidélité. J'ai demandé au général Burkhard de porter la main du capitaine d'Anjou cette année, parce qu'il sera accompagné aussi de deux sous-officiers emblématiques de la Légion étrangère, qu'on appelle les maréchaux de la Légion étrangère, parce qu'ils sont décorés de la Légion d'honneur. Et à eux trois, ils représentent toutes les opérations depuis la fin de la guerre d'Algérie jusqu'à nos jours. J'aime beaucoup ce symbole que le jeune légionnaire se reconnaisse en celui qui a commandé les opérations auxquelles il a participé, donc le général Burkhard, par ses différentes fonctions, que ce soit comme lieutenant au 2e REP, ensuite à la 13e brigade de la Légion étrangère, puis ses fonctions au sein du ministère des Armées, a été notre chef, nous a emmenés au combat. Et en fait, le voir remonter la voie sacrée va symboliser toutes ces opérations que l'on a menées et aussi une pensée pour nos camarades qui nous ont quittés, morts pour la France au combat.
Général Yutchenko, merci beaucoup.
Je vous en prie, merci.
Entretien signé Franck Alexandre pour la chronique Défense. Vous emmène maintenant dans des couloirs pas tout jeunes, ceux du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris qui fête ses 400 ans cette année. Il abrite de nombreux trésors scientifiques, notamment l'herbier national qui abrite sans doute la plus grande collection de spécimens de plantes au monde. On s'y promène avec Florent Guignard.
Avant de rentrer dans ce qui est le cœur de notre réacteur, ce sas avec une lumière verte pour détecter les insectes qui sont des ravageurs potentiels de nos collections.
N'entre pas qui veut dans l'herbier du Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris, qu'on visite en compagnie de son responsable scientifique, Germinal Rouen. Il veille sur 8 millions de plantes récoltées partout sur la planète. Certaines ont 400 ans, l'âge du muséum.
On va rentrer dans un espace dont les conditions sont contrôlées. La température est maintenue entre 19 et 22 degrés. Une humidité relative de 50% pour éviter l'installation de champignons qui sont des ravageurs du papier et des plantes.
C'est un véritable trésor qu'il faut préserver. Tout nouvel arrivant est mis en quarantaine.
Tous les spécimens qui nous arrivent, que ce soit les dons, les spécimens qu'on ramène nous-mêmes du terrain, doivent passer par la chambre froide pour désinsectisation. On peut lire, hein, moins 19,4 degrés, donc ça permet de tuer les insectes et puis les larves aussi, qui pourraient être sur certains spécimens.
Nous voici à présent au milieu d'immenses rayonnages coulissants dans cette bibliothèque de la nature. Il n'y a pas de livres, seulement des feuilles mortes conservées précieusement dans des pochettes.
On a plus de la moitié des espèces qui sont connues aujourd'hui dans le monde. Si on s'avance très légèrement dans la travée, eh bien on voit de nombreuses chemises cartonnées rouges. Ce sont les spécimens qui ont servi aux botanistes à décrire pour la première fois une espèce nouvelle pour la science.
Et aujourd'hui, l'herbier continue de faire progresser la science.
Nos collections, on voit, c'est des plantes sèches, apparemment mortes, mais elles ont encore une vitalité scientifique importante.
La génétique a révolutionné la botanique et on vient désormais à l'herbier faire des prélèvements ADN.
Nous avions rendez-vous au jardin botanique.
Ici, on a un spécimen qui n'est pas forcément très joli, mais on voit qu'il y avait un morceau de feuille ici qui a été enlevé. Il s'agit d'une espèce proche du manioc qui a été récolté en Afrique en 1928. Et pourquoi on a fait ce prélèvement? Parce qu'on a vu un symptôme d'une pathologie de la plante qui est un fléau dans les cultures africaines. Il a été possible de séquencer entièrement le génome de ce virus-là.
On peut traquer des virus et même des insectes morts il y a parfois des siècles, Germinal Rouen.
Même si on ne retrouve pas l'insecte lui-même, on passe un petit coton-tige et on va pouvoir retrouver l'identité de l'insecte qui a pu être hébergé par cette plante.
La nature n'est jamais tout à fait morte.
Au jardin botanique, la lumière était blanche. Tout sentait la flore. Et c'était dimanche.
Le reportage de Florent Guignard pour la chronique de la biodiversité. Il est 6h24 à Paris. C'est aujourd'hui encore parfois un véritable parcours du combattant pour les Français installés à l'étranger. Ouvrir, puis garder un compte en banque en France. Et c'est pour faciliter les choses et pour consacrer une garantie au compte bancaire qu'une proposition de loi a été adoptée au Sénat. Elle y sera étudiée le 7 mai prochain.